Donc les journaux sont confrontés à une difficulté terrible pour leur modèle économique, qui les incite à prendre une série de mesures, par exemple à proposer des contenus plus riches, plus substantiels contre rémunération, et à offrir une information, je dirais, basique et assez peu substantielle gratuitement sur les sites. D'où la menace d'une information à deux vitesses, hein, une information de qualité pour celui qui paye et une information de basse qualité pour le reste, pour le vulgaire blicus, comme on dit. Autre danger de cette situation, c'est la propension à essayer de favoriser un nombre, le plus grand nombre possible de clics sur telle ou telle page, puisque la recette publicitaire est immédiatement fonction du nombre de clics sur telle ou telle page sur laquelle se trouve la bannière ou l'annonce publicitaire de tel ou tel annonceur. C'était déjà perceptible en télévision, parce que là, il y a l'audimat, hein, on peut savoir que tel programme recueille davantage d'audience et que donc le programme publicitaire qui est avant ou après va sans doute être facturé plus cher parce qu'il y a plus de téléspectateurs. Mais en matière d'Internet, là, c'est immédiat. Il y a en temps réel, vous pouvez savoir combien de personnes ont cliqué sur tel ou tel contenu, sur telle ou telle page. D'où une certaine tendance, ou un certain risque, à privilégier évidemment les pages ou les contenus qui attirent davantage de clics. Et on sait bien, là c'est vous qui êtes en accusation, on sait bien que ce sont les pages people, les pages sportives, les pages de ragots, etc., qui attirent le plus de clics, en tout cas plus que les pages économiques ou que les pages politiques. Donc là aussi, il y a une sorte de danger, on peut le dire, de danger pour la qualité de l'information à terme. Et puis il y a cette apparition, c'est le deuxième phénomène actuel, cette apparition et cette généralisation des réseaux sociaux et de ce qu'on appelle user-generated content, le contenu généré par les utilisateurs. Actuellement, 80% des Belges sont connectés à un réseau de socialisation. C'est énorme. C'est presque autant que la télévision. La télévision, c'est 98% des gens. 98% des gens ont un téléviseur, ou deux ou trois. 80% des gens sont connectés à un réseau de socialisation. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'information? Ça veut dire que sur ces réseaux fonctionnent et circulent un certain nombre d'informations. La moitié d'entre nous, et spécialement la moitié des jeunes, ne s'informent que par ce système-là. C'est-à-dire qu'ils reçoivent leur information dans la mesure où elle leur est apportée. Elle leur est apportée par le réseau social. Elle leur est proposée par Facebook ou par Twitter. Et à partir de ce moment-là, ils en prennent connaissance. Mais ils ne font plus la démarche qui consiste à aller chercher l'information. D'où un risque, évidemment, de racrapotement, si vous voulez, de la superficie dans laquelle on va aller chercher l'information. C'est ce qu'un auteur américain a appelé la bulle filtrante d'Internet et des réseaux sociaux. Internet et les réseaux sociaux construisent autour de nous une bulle filtrante qui nous prive, enfin, qui nous épargne tous les contenus avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, ou qui nous gênent, ou qui nous intéressent pas, ou qui nous énervent, et qui au contraire nous abreuve en contenus qui nous plaisent, qui confortent nos opinions, qui confortent éventuellement nos préjugés, et qui font en sorte de nous plaire. Alors c'est dû au choix de nos amis, hein, évidemment, on choisit ses amis plutôt avec des gens avec lesquels on est d'accord, mais c'est aussi dû aux algorithmes de fonctionnement de ces réseaux qui ne vous proposent pas seulement des choses postées par vos amis, mais aussi des choses qui vous arrivent soi-disant spontanément et qui sont en fait des produits de calcul algorithmique à partir de votre profil, à partir de vos propres choix. Donc on va vous proposer des contenus, on va vous proposer des publicités, mais aussi des contenus, des articles, des vidéos, etc., etc., qui correspondent à votre profil. Et donc vous êtes constamment encouragé dans un sens, hein, votre pensée est constamment encouragée dans un sens, et vous êtes épargné, tout ce qui vous est épargné, c'est ce qui pourrait éventuellement vous déplaire ou vous contrarier. Alors, c'est préoccupant, pourquoi ? Parce que ça réduit complètement ce que l'on appelle aujourd'hui la sérendipité ou la fortuitude, c'est-à-dire la possibilité d'accéder par hasard à des contenus auxquels on ne s'attend pas ou qu'on ne recherche pas. Quand vous ouvrez un quotidien, ce n'est pas vous qui avez fait la sélection. Vous ouvrez le journal et puis il y a un article sur le sport, un article sur l'économie, un article sur... il y a un fait divers, il y a une analyse, il y a une opinion, il y a une interview, etc. Et si vous voulez lire le journal dans sa totalité, vous allez voir un peu de tout. Avec ce système d'algorithmes et de filtres, de bulles filtrantes, votre espace de connaissance et votre espace de réaction se restreint d'une certaine façon. Au lieu de nous ouvrir sur le monde, ce système nous racrapote un peu tous dans une sorte de bulle, hein, dans une sorte de petite hutte autour de chacun, qui fait que nous sommes de plus en plus une addition d'individus et de moins en moins une communauté. Ça a évidemment un certain nombre d'effets aussi sur la construction d'opinion et sur l'image que nous avons du monde où nous vivons. Et puis il y a cette apparition donc de user-generated content, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, tout le monde est journaliste, tout le monde a un smartphone, tout le monde peut filmer des images d'un attentat, d'un accident, tout le monde peut mettre des informations sur Twitter et faire connaître des éléments d'actualité, mais en 146, c'est vous dire avec quelle précision et avec quelle nuance l'information circule. Et donc, comme tout se vaut sur ces réseaux sociaux, aussi bien les rumeurs que les vidéos personnelles, que les images de la famille autour de la galette des rois, que les images de beuverie, tout ce que vous voulez, tout est mis sur le même plan. Les analyses solides, les événements, les nouvelles qui ont été vérifiées, l'actualité validée par des professionnels, mais aussi des délires complets, des vaticinations, des élucubrations, des propos racistes, odieux, haineux, violents, etc. Tout est placé sur le même plan. Tout se vaut. Et donc, d'une certaine façon, rien ne vaut. Parce qu'il est extrêmement difficile de faire le départ entre le contenu qui a de la valeur et le contenu qui n'en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour faire face à ça ? Bon, il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Par exemple, labelliser les sites d'information, labelliser les informations qui sont le fruit d'un véritable travail de vérification, de recoupement, comme on dit, parce que ça, c'est l'obligation professionnelle et déontologique des journalistes, par exemple. Donc, revaloriser la fonction de journaliste comme fact-checker, hein, comme vérificateur de crédibilité d'information, c'est une piste, mais pour l'instant, on ne la voit pas apparaître, en tout cas. Et, encore une fois, c'est une préoccupation, je crois, importante aujourd'hui, quant à la manière dont nous faisons une idée du monde dans lequel nous vivons, et quant à la représentation sociale que nous avons de la société. Donc, si vous voulez, pour me résumer, je dirais qu'on est dans une phase extrêmement importante de modification des paramètres. On pourrait dire une crise, mais je crois que le mot crise est un peu galvaudé, n'a pas beaucoup de sens ici. Ce n'est pas vraiment une crise, c'est plutôt un changement profond des paramètres dans lesquels nous avons l'habitude de fonctionner en matière d'information, en matière de connaissance du monde. Et un bouleversement, un dérèglement, un peu comme le dérèglement climatique. Et donc il faudra prendre des mesures, mais surtout il faudra que les citoyens, les associations, les gens qui réfléchissent, prennent conscience de ça et réagissent. Parce que il ne faut pas attendre des grandes structures, ni des grandes structures commerciales, ni des grandes structures étatiques, qu'elles changent quelque chose à ça, parce qu'elles y ont intérêt. Elles y ont intérêt. Les grandes multinationales qui dominent le domaine des médias, ça les arrange, hein, ça les arrange ce système. Une des sociétés les plus fructueuses et les plus qui sont les plus riches aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Google, ce sont les grands opérateurs du web. Toute limitation ou toute réglementation ou toute régulation de leur activité est ressentie par ces grands consortiums, par ces grandes sociétés, comme des limites insupportables à leur développement, et elles ont les moyens économiques et politiques de s'en préserver, et elles ne s'en privent pas. Et ce n'est pas les autorités européennes, même les autorités européennes, qui vont être en mesure d'intervenir sur ce terrain-là, parce qu'elles n'ont pas la dimension suffisante. Il faudrait une autorité mondiale, avec des moyens de coercition, une véritable autorité mondiale avec des véritables moyens de coercition, pour contrecarrer ce développement, et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà. Donc je fais appel à votre citoyenneté et à votre résistance pour réfléchir à cette nouvelle donne. Cela dit, le tableau ne doit pas non plus être considéré comme trop noir, parce que dans les interstices, à travers ce développement, par exemple, de l'Internet, se glissent évidemment des choses très intéressantes, de nouveaux sites d'information, de nouvelles manières d'apprendre. Et pour peu qu'on soit un peu efficace et un peu attentif, il y a moyen, aujourd'hui plus que jamais, notamment à travers des initiatives comme Wikipédia, etc., il y a moyen de découvrir et de connaître beaucoup plus de choses qu'avant, beaucoup plus facilement qu'avant. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que cette conformation, cette technique, permet de véhiculer à la fois le pire et le meilleur, le plus crédible et le plus incroyable. Donc, ces bonnes pistes, ces bonnes perspectives doivent évidemment être encouragées, développées, mais elles ne peuvent l'être que par notre propre adhésion et notre propre soutien. Voilà, merci, je suis les uns aux autres, etc. Sans compter, bien entendu, les dérapages racistes, xénophobes, les injures envers les supporters de l'Anderlecht sur le site du Standard, etc. Donc, je pense qu'il y a, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a le pire et le meilleur, et qu'il y a effectivement du meilleur dans ce que vous dites, c'est-à-dire l'apport de citoyens qui ont le temps et qui veulent vraiment apporter de la réflexion, qui veulent poursuivre la réflexion sur les sujets qui ont été mis en avant par les médias. Et il y a des sites professionnels qui font ça aussi, mais que, comme je le disais tout à l'heure et comme vous le disiez très bien, ce sont souvent des sites payants. Mediapart en France fonctionne très bien, fait du bénéfice, mais c'est un site payant. Et ils font du journalisme d'investigation et ils réussissent comme ça à vivre très bien, mais avec le système d'abonnement qui fait que ce n'est pas accessible à tout le monde. Heureusement, c'est repris parfois par d'autres médias et finalement, ça finit par faire le buzz et quand c'est vraiment important, on finit par le savoir, mais c'est une caractéristique, tout à fait. Le problème, c'est que, comme vous disiez aussi, les sujets qui rameutent le plus de commentaires et qui suscitent le plus d'intérêt sont souvent des sujets superficiel, soit très proche des préoccupations des gens. Et ça, c'est une logique qui est à l'œuvre dans les médias mainstream aussi, dans les médias grand public. On cherche à ressembler le plus possible à son public, donc on va lui montrer ce qu'il connaît. Hein? Par exemple, on va multiplier dans les journaux télévisés aujourd'hui ce qu'on appelle les marronniers. C'est quoi les marronniers ? Là, je vais vous apprendre quelque chose. Chaque année au printemps, les marronniers sont en fleurs. Et les marronniers, ce sont les sujets qui reviennent régulièrement. Par exemple, le salon de l'auto. Par exemple, les premières neiges, 40 minutes dans le journal télévisé. Par exemple, la rentrée des classes, la galette des rois, le réveillon, que sais-je encore, le départ en vacances, la rentrée des classes, etc. Tous ces sujets-là, c'est pas de l'info. C'est pas de l'info. La galette des rois, c'est pas de l'information. Mais le téléspectateur moyen va regarder la télévision pour être en communion avec les autres et se rendre compte que ce qu'il a fait, les autres l'ont fait aussi. Tout le monde a découpé la galette des rois, et donc tout le monde a vécu cet événement. Et donc ça fournit à la chaîne une occasion de créer cette connivence, cette relation affective avec son public. C'est ce qu'on appelle de la proximité.
Bien. On nous l'impose, monsieur. On s'en fout, nous, de la galette des rois. On nous l'impose.
Oui, monsieur.
De même, on nous impose et les puissants de Waregem en première du journal Paris.
On vous l'impose à vous.
Vous êtes responsable de ça. Vous avez été journaliste. Oui. Vous avez fait le choix des sujets. Je pense que c'est vous qui choisissez les priorités. Quand vous faites passer un Zulte de Waregem avant les combats en Syrie, eh bien, ça veut dire que les combats en Syrie, tout le monde s'en fout. Vous nous imposez ça.
Monsieur, oui. D'abord, moi, je ne faisais pas ce type de choix-là. Je pense que ça a beaucoup changé. Mais le fait est que le journal télévisé, il a une fonction qui n'est pas une fonction d'information. Il faut bien vous rendre compte que dans la stratégie d'une chaîne aujourd'hui, le journal télévisé, ce n'est pas une émission d'information. C'est une émission de fidélisation et de fédération du public. C'est-à-dire que l'objectif du journal télévisé, c'est l'émission la plus regardée. Hein.